Partie 8. Maîtriser le débat. Le premier duelliste, je l'expédie avec les honneurs qu'on lui doit. Que ceux qui veulent mourir lèvent le doigt. Cyrano peut se permettre de pérorer. Son verbe, il le sait, est aussi acéré que son épée. Sur le champ de bataille, comme dans une joute verbale, personne n'osera l'affronter. C'est que, de l'orateur au bretteur, il n'y a qu'un pas. La rhétorique ne se réduit pas au plaisir de faire virevolter les mots avec éclat. Elle est aussi l'art du combat. Au quotidien, nous discourons moins que nous débattons. Bien souvent, lorsque nous faisons valoir nos positions, nos intérêts ou nos valeurs, les individus avec lesquels nous échangeons ne se contentent pas de nous écouter benoîtement. Au contraire, ils argumentent tout autant. S'engage alors une lutte pied à pied, jusqu'à ce que certains fléchissent et consentent à concéder leurs convictions. Parfois, un partenaire de conversation se change même en authentique adversaire. Nous savons par avance que nous ne parviendrons pas à emporter son adhésion, pas plus que lui la nôtre. Nous cherchons alors à le terrasser, afin de prouver la valeur de notre position aux yeux de ceux qui nous écoutent. Tel est le fossé qui sépare la discussion délibérative du combat compétitif. Dans l'une, nous cherchons à convaincre nos interlocuteurs. Dans l'autre, à vaincre nos contradicteurs pour convaincre les auditeurs qui assistent à l'affrontement. C'est de cette dernière modalité, la compétition, qu'il nous faut désormais traiter. Si nous désirons faire prévaloir nos idées, nous allons devoir apprendre à batailler. Chapitre 1. Les principes de la compétition. Alors, certes, il y a les querelleurs professionnels, les bagarreurs chevronnés, les empêcheurs de tourner en rond. Ils accueillent le débat avec délectation, quand ils ne le provoquent pas intentionnellement. La joute verbale est leur jouissance. Et puis, il y a les autres, les plus nombreux, chez qui elle soulève plutôt de la réticence. Ne serait-il pas possible dès lors de se contenter de l'éviter? Pourquoi apprendre à combattre si l'on n'entend pas engager le combat? C'est que parfois, nous n'avons pas le choix. L'escrime oratoire n'est nullement réservé aux avocats, aux polémistes et aux politiciens. Que cela nous plaise ou non, elle est notre lot quotidien. Un collègue s'oppose à notre proposition durant une réunion, nous allons devoir lui répondre, montrer notre supériorité et laisser le patron trancher. Un ami propose d'aller randonner dans les montagnes, il va bien falloir prendre la défense de la plage, vanter les mérites de l'oisiveté et accepter de voir le reste du groupe décider. Un importun nous prend à partie dans une soirée. Que faire sinon contre-attaquer, exposer sa fatuité et nous couvrir de gloire? Régulièrement, le débat vient à nous. Nous ne pourrons pas toujours nous dérober. Il faudra apprendre à nous y confronter et, quand bien même nous n'aspirons qu'à la tranquillité, faire nôtre la fameuse devise latine « Si vis pacem, parabellum ». Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour nous orienter au sein de ces débats compétitifs, nous allons devoir commencer par en comprendre le fonctionnement. Non point les règles, car il n'y en a pas, mais plutôt les principes. Il faudra toujours les avoir à l'esprit, ils conditionneront par la suite toute notre stratégie. 1. Les positions sont réduites à une opposition. Lorsque nous cherchons à emporter la conviction dans le cadre d'un discours ou d'une conversation, les auditeurs ou les interlocuteurs ont à leur disposition un grand nombre d'options. Ils peuvent accepter la proposition que nous leur soumettons ou lui préférer l'une des nombreuses alternatives auxquelles ils ont été exposés auparavant, voire décider de ne se laisser convaincre par rien et réserver leur jugement. Ces dynamiques, monologiques et délibératives, demeurent ainsi très ouvertes. A contrario, les joutes oratoires présentent une structure beaucoup plus fermée. La discussion s'y trouve ramenée à une confrontation entre un nombre limité de solutions, le plus souvent deux. Toutes les autres possibilités sont rejetées dans l'ombre. La dynamique compétitive favorise ainsi le glissement vers la dichotomie. Elle n'admet que deux vainqueurs possibles, soit nous, soit notre adversaire. C'est le premier principe du débat contradictoire. Les positions tendent à s'y réduire à une opposition. Cette structure dichotomique, n'admettant donc que deux options, entraîne une conséquence capitale. En tant qu'oratrice ou orateur, pour emporter l'adhésion des personnes qui assistent à notre joute, deux voies s'offrent à nous. Montrer la supériorité de notre position ou révéler la faiblesse de celle de l'adversaire. Dans la mesure où nous sommes les seuls antagonistes en présence, l'une et l'autre reviennent au même. C'est la proposition triomphante qui sera jugée la plus pertinente. Ne cherchons donc pas, ou du moins pas prioritairement, à nous adresser aux auditeurs, mais bien à pourfendre notre interlocuteur. 2. Les orateurs sont noyés dans le brouillard. Le brouillard de la guerre. Cette expression, forgée par le stratège prussien Karl von Clausewitz, est utilisée encore aujourd'hui pour décrire l'expérience particulière des soldats sur le front. Lâchés dans un univers chaotique, la vue obscurcie par la poussière et l'ouïe saturée par les explosions, autour d'eux, tout devient flou. Malgré l'entraînement militaire, la collecte de renseignements et une méticuleuse planification, la réalité première du combat, c'est la confusion. Il en va de même pour le débat. Nous l'avons déjà vu, avant de nous engager dans une confrontation d'idées, nous devons nous préparer. Nous élaborons notre ligne argumentative, anticipons les objections, identifions les questions sur lesquelles nous sommes forts et celles qui révèlent nos faiblesses, bref, nous établissons une cartographie de la controverse. L'action, toutefois, est rarement conforme à son anticipation. À l'instant où les premiers mots sont prononcés, tout bascule. Il nous faut soudain parvenir à diviser notre attention sur quatre fronts. Tout d'abord, déterminer ce que nous nous apprêtons à répliquer, sans quoi nous risquons de rester coi et passer pour des benêts. Dans le même temps, écouter ce que l'adversaire est en train d'avancer pour identifier les ouvertures éventuelles et ne pas répondre à côté du sujet. Mais également, conserver une vision d'ensemble, garder en tête la progression de notre argumentation, afin de ne pas dévier de notre ligne. Enfin, anticiper les réactions des auditeurs, imaginer la perception qu'ils ont de la confrontation pour, au besoin, réorienter l'image que nous renvoyons et les émotions que nous suscitons. La joute oratoire est un véritable défi pour l'esprit. Confrontés à une telle épreuve, nos nerfs se tendent, notre discernement se contracte, notre perception du temps se modifie. Rien n'existe d'autre que ce qui se dit maintenant et ici. La pensée stratégique qui voit arriver les difficultés de loin laisse place aux réflexes et aux intuitions du terrain. Tel est donc le premier principe du débat contradictoire. En tant qu'oratrices ou orateurs, nous sommes noyés dans le brouillard. Même en étant pleinement concentrés, nous ne pouvons déployer qu'une rationalité limitée. Cela explique d'ailleurs qu'il soit si aisé de critiquer les débats politiques. Confortablement installés devant la télévision, les réparties viennent facilement et l'on se plaît à rêver pouvoir faire mieux que ces deux protagonistes. Dans le feu de l'action, toutefois, nous constatons combien l'exercice est acrobatique. Saturés, déboussolés, à chaque instant nous risquons d'être pris de court, de ne pas avoir le temps de réfléchir avant de parler et donc d'être contraints de parler pour réfléchir. Bien sûr, avec le travail et la pratique, nos capacités vont s'affûter. Mieux nous connaîtrons le dossier, plus nous serons expérimentés et plus il sera difficile de nous piéger. Mais aucun bretteur n'est invincible. Nous sentirons toujours planer la menace, sourde et terrible, de nous faire surprendre. Une fraction de seconde suffit, une erreur, une faille, une hésitation même, et nous sommes morts. L'adversaire nous transpercera sans remords. Il faut avoir bien à l'esprit cet état de danger permanent. Aborder un débat avec légèreté, c'est prendre le risque d'être vaincu par un interlocuteur que nous avons sous-estimé. La bonne nouvelle, c'est que la réciproque est vraie. Dès lors que nous avons conscience du brouillard, nous pouvons l'utiliser à notre profit pour déployer nos stratégies. 3. Les auditeurs sont captifs de l'instant. En tant qu'auditrices ou auditeurs, nous venons de le voir, nous ne sommes pas piégés dans le brouillard. Dégagés de la charge émotionnelle et cognitive pesant sur les bretteurs, nous pouvons croire que nous conservons un regard panoramique et objectif sur la situation. Or, la plupart du temps, il n'en est rien. Quand nous assistons à un débat, en effet, deux contraintes s'exercent sur nous. La première, c'est la quantité limitée d'attention dont nous disposons. Dans notre société saturée d'informations et de sollicitations, elle est devenue l'une des ressources les plus précieuses. Lorsque, au gré de nos pérégrinations médiatiques, nous nous trouvons exposés à une discussion contradictoire, nous n'avons souvent qu'une attention restreinte à lui allouer. Que nous soyons dans notre voiture, sous la douche ou même dans notre canapé, nous tendons à ne consacrer aux échanges qu'une écoute flottante. Et quand bien même nous serions pleinement concentrés, soit parce que la discussion nous passionne, soit parce qu'elle se déroule sous nos yeux dans le monde réel, elle a toutes les chances de se prolonger assez pour que nous en perdions le fil. Une poignée de minutes suffisent pour que nous soyons incapables de nous souvenir comment la conversation en est arrivée là. Nous avons beau redoubler d'efforts pour demeurer attentifs, tout nous échappe à mesure que le débat s'éternise. De notre point de vue, ainsi, les débats contradictoires ressemblent davantage à une succession de passes d'armes qu'à un édifice logique et cohérent. Et au fond, ce n'est pas si important, nous continuons de profiter du moment présent. La deuxième contrainte que nous sentons s'exercer sur nous, en tant qu'auditrices ou auditeurs, c'est l'étendue limitée de notre compétence. Dans la majorité des cas, nous ne sommes pas experts des questions que nous avons à trancher. C'est vrai dans le cadre professionnel, par exemple. Si deux collègues s'affrontent en réunion, c'est qu'ils ont pris le problème à bras-le-corps et sont en mesure de proposer chacun une solution. Quant à nous, qui n'avons suivi le sujet que de loin, nous en sommes réduits à jouer les arbitres, sans quoi d'ailleurs nous serions en train de défendre notre propre proposition. La situation est encore plus flagrante lorsque nous assistons à un débat politique ou scientifique, dont les enjeux sont d'une grande complexité. À moins d'avoir étudié nous-mêmes abondamment, nous ne serons pas en mesure d'évaluer en profondeur la solidité des arguments. Et c'est bien là tout le problème. dès lors que l'expertise nous fait défaut, il devient délicat de distinguer les raisonnements fallacieux, de repérer les données erronées, d'identifier les faits mensongers. Faute de maîtriser la cartographie du débat, il peut même apparaître compliqué de faire la différence entre un point crucial et un aparté accessoire. De ces contraintes découle le troisième principe du débat contradictoire. En tant qu'auditrices ou auditeurs, nous sommes captifs de l'instant. Sauf à être particulièrement attentifs et hautement compétents, au terme d'une longue confrontation argumentée, il nous sera difficile d'en restituer la cohérence globale. Nous risquons de retenir surtout quelques moments saillants, pas forcément les plus centraux ni les plus pertinents, mais les plus mémorables. Cette nature chaotique du débat, les oratrices et les orateurs vont pouvoir l'exploiter de manière stratégique. 4. Les arguments sont occultés par les impressions. Parce que les auditeurs sont en grande partie soumis à la tyrannie de l'instant, ils sont difficilement en mesure d'évaluer la solidité des lignes argumentatives qu'ils voient s'entrechoquer dans la discussion. Ils ne manquent pas, en revanche, d'être marqués par un ressenti. Qu'un des débatteurs les fasse rire et ils gagnent leur sympathie. Qu'ils paraissent touchants et il obtient leur compassion. Qu'il les ennuie ou les offense et il récolte dédain ou détestation. Lorsque le débat s'achève, quelques-unes des preuves avancées ont porté, les autres sont déjà oubliées. Les images perçues et les émotions éprouvées, en revanche, restent à jamais. Dans la confrontation, le logos tend à s'effacer derrière l'éthos et le pathos. La manière prévaut sur la matière. C'est le quatrième principe du débat contradictoire. Les arguments sont occultés par les impressions. Sitôt énoncé, ce principe doit être nuancé. Il ne signifie en aucun cas que le logos n'est pas d'importance. Au contraire, l'argumentation est le squelette sur lequel toute notre force de conviction va s'articuler. L'image et les émotions n'ont un impact que dans la mesure où un raisonnement puissant les sous-tend. N'allons donc pas penser que faire le pitre ou se présenter à son avantage suffise pour l'emporter. En tant qu'oratrices ou orateurs, si nous ne sommes pas capables d'étayer nos propositions par une pensée structurée, nous devenons vulnérables au plus brutal des réfutations. Une objection bien placée suffira pour nous ridiculiser. Dénuée de logos, la rhétorique est une forteresse sans protection. De surcroît, plus nos auditeurs seront compétents sur le sujet en discussion, et plus les arguments gagneront en portée et en efficacité. Face à un parterre d'experts, ils seront même le seul critère sur lequel nous serons jugés. L'argumentation apparaîtra donc, sauf exception, comme une condition nécessaire à l'obtention de la conviction. Mais dans le cadre d'un débat, elle est rarement suffisante. Si nous ne prévalons pas également sur le plan de l'image et des émotions, il y a peu de chances que nous l'emportions.